D'abord, merci Nicolas. Et puis, il y avait la question de définir le cinéma punk qui était intéressante, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Il y avait le fait de voir est-ce que Au Sens c'est du cinéma punk, est-ce que Derek Jarman en Angleterre c'est du cinéma punk. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que certainement certains des films les plus punk de Derek Jarman, c'est par exemple ses adaptations de La Tempête de Shakespeare, donc des adaptations classiques. Maintenant, si vous voulez vous asseoir, qu'on puisse, vous puissiez écouter les questions tranquillement.
Alors, moi, je rebondis sur l'intervention de Philippe. Effectivement, je pense que le film de Puikkuil est une source absolument extraordinaire pour travailler sur ce mouvement punk. Il y a beaucoup d'acteurs. On voit les Loos aussi, hein, qu'on n'a pas vu dans la bande son, là, il me semble, mais il y a les Loos qui jouent dedans.
Et puis, il y a des groupes dont je me souviens même pas, quoi. Autant je me souviens de Gogo Pigalle, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ni ce qu'ils ont fait. Autant il y a d'autres noms. Franchement, je ne savais même pas qu'ils avaient existé. Mais en même temps, il y a Taxi Girl, il y a tout un tas de groupes dont on n'a pas encore parlé, je crois.
Non. Bah, j'avais lu un article là-dessus sur quand le film est sorti. En fait, le mec a fait qu'un seul film parce que personne ne l'a vu, quoi. Tout simplement. Il y a 40 personnes qui l'ont vu. Je crois qu'ils l'ont ressorti au Palais de Tokyo pour les 40 ans du punk, ou je ne sais plus quand, il y a 2-3 ans. Et là, il y avait gavé de monde. Genre, tout le monde a kiffé parce que c'est super.
Oui, c'est ça. C'est d'un seul coup, tout le monde. C'est un peu aussi cette chose qu'on voit lorsque je parle de la presse, qui commence à parler un peu du punk rock, etc. Je veux dire qu'il est évident, je vais encore parler de moi, mais c'est ce que j'aurais dû faire la dernière fois, j'ai pas pu venir au mois de juin, mais pourquoi reformer Mouvement Perpétuel aujourd'hui? Je veux dire, tout le monde s'en fout. On a guère quitté la banlieue de Lyon, le plus loin qu'on soit allé, je crois que c'est à Givors. Donc, il y a peut-être 30 personnes dans le monde qui se souviennent qu'on a existé, dont la moitié c'est ma famille et l'autre moitié la famille de l'autre membre. Donc voilà, nous c'est pour le fun, c'est vraiment pas pour le pognon, parce que si on compte faire de l'argent avec ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a aujourd'hui, dans tout le travail qu'on fait de réémergence, et c'est ce à quoi il faut qu'on prête aussi attention, c'est que la manière dont on va interpréter l'histoire et les choses réelles telles qu'elles sont passées. C'est-à-dire que il y a des groupes qui étaient là, qui étaient présents, qui ont eu un peu de presse. Il y a des groupes qui n'étaient pas connus. On va essayer d'en parler, mais il ne faut pas les remettre à une place plus grande que celle qu'ils avaient à l'époque. Et c'est ça un peu le danger aussi quand on fait de... Moi, je ne suis pas historien, je suis musicologue, mais faire attention à ne pas trop faire briller des choses qui, à l'époque, ne brillaient pas, mais qui existaient. Donc c'est un peu c'est à la fois le danger et à la fois ne pas non plus oublier tous ces groupes qui étaient là et qui font le ferment d'une scène locale, qui font que les petites salles, comme ici et parfois plus petites, vivent. Le samedi soir, on a des groupes qui jouent. Il y a des gens qui viennent boire de la bière et fumer des clopes à l'époque, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus fumer, c'est tout juste si on peut boire. Donc, et qui font que ça vivait, que le soir on sortait, qu'on allait voir des groupes et qu'on était potes avec machin, potes avec bidule, qu'on jouait avec tel groupe, après avec tel autre. Moi j'ai joué avec l'Enfance Éternelle, qui a eu plus de retentissement que le groupe dans lequel je jouais. Voilà, donc c'était ça les scènes locales. Et on parlait là en aparté avec Luc de ses aventures bordelaises. C'est la même chose, quoi. Il y a plein de groupes qui tournent. Je joue avec Pierre, je joue avec Paul, et puis je rejoue avec Jacques, puis je reviens jouer avec Pierre, etc. Voilà, il faut faire attention à ça. Et là, il y a des groupes dont les noms sont restés, et puis il y a des groupes qui ont disparu, mais qui ont pu marquer à un moment ou à un autre l'histoire du rock en France et du punk en France.
Bien. Dernière petite question, oui.
C'est juste une précision, Philippe, tu évoquais la présence des groupes français dans Best Rock and Folk, ouais. Et le cas de Ange, je crois, qui a eu sa petite chance du fait qu'un membre écrivait dans le magazine. Il y a le contre-exemple, Magma, il y avait un membre, Klaus Blaskis, il a écrit dans Rock and Folk,
ouais.
Et ça ne l'aura pas fait de...
Il a écrit dans Rock and Folk après son départ de Magma.
Ah, et peut-être qu'il avait des mauvaises relations avec Magma, il n'en parlait pas en bien à la rédaction.
Bah, disons que la manière, je peux en parler de Magma, j'ai fait un bouquin sur eux, donc, et je connais bien Klaus. Disons que la manière dont il a été évincé ne lui a pas forcément plu, il chantait de moins en moins, donc à un moment donné il a dit ça va, j'en démarre, je m'en vais, à tel point qu'il y a même des disques sur lesquels on ne mettait pas son nom alors qu'il était sur le live, etc. Donc c'est pas forcément bien passé. Et même aujourd'hui, là je l'ai eu encore il n'y a pas très longtemps, t'as vu, ils ont sorti les BBC de 74, il me dit « Ah bon, je ne suis pas au courant, mais on n'a pas envoyé ». Donc voilà, ça c'est les relations de Blaskis avec Magma. Mais il écrivait dans sa fameuse « Close to you », c'est après son départ, ou juste à la jointure avec son départ de Magma. Et effectivement, là. Après, Ange, c'est un groupe qui a quand même été, à mon sens, les variations se sont arrêtées un peu tôt, c'était très rock'n'roll. Ce sont les deux groupes. À une époque, on était en rock progressif avec Magma, qui avait pignon sur rue dans la presse française. Sachant que Ange, Francis Descamps, racontait récemment qu'ils avaient la possibilité de signer chez Island Records, je crois, enfin, peu importe, un label anglais qui leur aurait permis d'avoir une dimension internationale, mais que le petit représentant de chez Philips ne pouvait pas piffer le représentant de chez Island et que donc il a fait en sorte que ça puisse jamais se faire. Donc à quoi tient une carrière parfois la presse ou un gratte-papier dans une maison de disques, quoi.
Bien, dernière petite intervention, François.
Juste pour aller dans ton sens sur l'analyse qu'on pourrait faire rock and folk best et puis même la concurrence qu'il y avait entre les deux.
Exact.
Nous, en tant que Beru, en 83, c'est moi qui envoyais les petites annonces pour qu'ils publient dans Rock d'ici pour essayer d'apparaître dans la presse qui ne parlait pas du tout de ce qui se passait. Parfois ça marchait, parfois c'était publié, parfois non. Mais je pense qu'il y avait un décalage de génération. Comme tu parlais de Ange, il y avait des gens, ils étaient d'une autre génération et d'une autre culture musicale.
Oui, oui, oui.
Et la deuxième chose un peu qui nous a mis le pied à l'étrier chez Best notamment, c'est grâce à Francis Dordor, il faudrait peut-être l'interviewer d'ailleurs, parce que c'était un acteur majeur mais silencieux.
Vous avez fait une couve en 85, je crois, de Best.
Il est venu avec nous en tournée, il était très discret comme personnage, et en fait, on a eu des atomes crochus parce qu'il faisait du karaté. Et donc, c'est un peu par le karaté qu'il est venu aussi à voir ce que faisaient les Berus sur scène. C'est un peu... Enfin, il faudrait lui poser la question.
Ça peut être intéressant, en dehors de Manœuvre, qui est historiquement quelqu'un qui domine cette espèce
de presse. Dordor était vraiment un personnage de l'ombre.
Dordor, on a Lacoche aussi, qui est encore actif. Il y a aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, qui écrivait dans Best, qui publie
Bruno
récemment.
Aussi.
Et puis il y a Bruno Blum, oui. Ouais. Oui.
Et juste le premier mot, le premier groupe qu'on a vu, c'était Ici Paris. Ils vont se reformer.
Que j'aimais bien Ici Paris.
Voilà, ouais. Et donc ils vont sortir un nouveau disque. Et ce qui m'a super ému quand je les ai croisés, c'est que la deuxième chanteuse est morte et en fait va monter sur scène sa fille. Et donc,
d'accord.
C'est une histoire incroyable.
C'était Allô le Monde, Ici Paris, je crois, le premier album.
Merci beaucoup.
Et Edith Nilon aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé.
Ouais,
mais
il reste du travail, hein, c'est clair.
Il reste beaucoup de travail.
Mais tant mieux, c'est ce qui est excitant et stimulant. Mais encore merci.